Bonjour à tous. J'ouvre l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société PrediLife. Avant de débuter l'Assemblée générale, je vous rappelle que la présente Assemblée a été convoquée selon les termes de la loi, des règlements et des dispositions transitoires applicables dans le contexte sanitaire actuel, notamment l'ordonnance numéro 2020-231 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance numéro 2020-1497 du 2 décembre 2020, puis prorogé par le décret numéro 2021-255 du 9 mars 2021. En conséquence, compte tenu de la crise sanitaire actuelle et des mesures qui ont été prises pour faire face à l'épidémie de COVID-19, le conseil d'administration a décidé que l'Assemblée générale se tiendrait à huis clos hors de la présence physique de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit d'y assister. Toutefois, conformément aux dispositions que je viens de citer, l'Assemblée générale peut être suivie en direct et une retransmission sera accessible en différé sur le site internet de la société. Par ailleurs, en raison de ces mesures de huis clos, je vous précise qu'il n'y aura pas de débat en séance, que les questions orales en séance ne seront donc pas possibles et que ni les propositions d'amendements sur les résolutions à l'ordre du jour, ni l'inscription de résolutions en nouvelle séance ne seront acceptées. Ceci ayant été exposé, nous allons procéder à la constitution du bureau. En vertu de la loi et des statuts, en ma qualité de président-directeur général, j'assurerai les fonctions de président de l'Assemblée générale. Madame Marion Renelier assurera les fonctions de secrétaire de l'Assemblée générale. Compte tenu des mesures de huis clos et conformément aux dispositions du décret numéro 2020-418 du 10 avril 2020, prorogé par le décret numéro 2021-255 du 9 mars 2021, Marion Renelier et moi-même assurerons également les fonctions de scrutateur. Je vous précise enfin que l'ensemble des documents liés à l'Assemblée générale ont été mis à disposition des actionnaires dans les conditions et modalités prévues par la loi. Je donne maintenant la parole à Marion Renelier pour l'annonce du quorum.
Bonjour à tous. Donc, à titre préliminaire, je vous rappelle qu'en vertu de la loi, l'Assemblée générale ne délibère valablement qu'après atteinte d'un quorum de 20% pour les résolutions à titre ordinaire et de 25% pour les résolutions à titre extraordinaire. En outre, compte tenu des mesures de huis clos décrites précédemment, aucune présence n'est possible et le quorum est calculé uniquement sur la base des votes par correspondance, ainsi que les pouvoirs au président transmis dans les modalités et les délais prévus par la loi. Donc, les votes par correspondance et les pouvoirs au président reçus par la société font état que les actionnaires participant à l'Assemblée générale détiennent ensemble 3 479 087 actions ayant droit de vote, soit 80,80% des actions ayant droit de vote, et 5 496 332 droits de vote, soit 86,64% des droits de vote. En conséquence, le quorum de 25% étant atteint, l'Assemblée générale peut valablement délibérer tant à titre ordinaire qu'à titre extraordinaire. Avant la présentation des rapports, je vous rappelle que l'Assemblée générale, elle est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant. Donc, à titre ordinaire, il va y avoir la lecture du rapport de gestion du conseil d'administration sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020, incluant le rapport de gestion du groupe, la lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, la lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020, la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L225-38 du Code de commerce, la lecture du rapport du conseil d'administration, l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, la première résolution, l'approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020, deuxième résolution, l'affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ce sera la troisième résolution, l'approbation des conventions visées à l'article L225-38 du Code de commerce, quatrième résolution, le renouvellement du mandat d'administrateur de M. Stéphane Ragusa en tant qu'administrateur, le renouvellement du mandat d'administrateur de la société Caravelle en tant qu'administrateur, le renouvellement du mandat d'administrateur de M. Antoine Bricard en tant qu'administrateur également, le renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Ombline de Villèle en tant qu'administrateur. Il faudra aussi autoriser l'autorisation à donner au conseil d'administration pour mettre en œuvre un programme de rachat de ses propres actions, conformément aux articles 22-10-62 et suivants du Code de commerce, et enfin la 10e résolution à titre ordinaire, les pouvoirs. Ensuite, à titre extraordinaire, il y aura la lecture du rapport du conseil d'administration, lecture des rapports spéciaux du commissaire aux comptes, la délégation de compétences consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital de la société avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, la 11e résolution. Pour la 12e résolution, délégation de compétences consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public, autre que celle visée à l'article L411-2 premièrement du Code monétaire et financier. Pour la 13e résolution, délégation de compétences consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital de la société dans la limite de 20% du capital par an, dans le cadre d'offres au public s'adressant exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs, agissant pour son propre compte ou à des investisseurs qualifiés visés à l'article L411-2 premièrement du Code monétaire et financier. Pour la 14e résolution, délégation de compétences consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital au bénéfice d'une catégorie dénommée d'investisseurs. Concernant la 15e résolution, délégation de compétences consentie au conseil d'administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires. Concernant la 16e résolution, autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la société par voie d'annulation d'actions précédemment rachetées dans le cadre de l'autorisation d'achat de ses propres actions. Pour la 17e résolution, autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes de la société. La 18e résolution, délégation de compétences à donner au conseil d'administration pour augmenter le capital de la société au profit des adhérents au plan d'épargne entreprise. Et enfin, la 19e résolution, les pouvoirs. Et je vous rappelle enfin que la société n'a pas reçu de questions écrites préalablement à la présente réunion. Je laisse la parole à Stéphane Ragusa.
Merci Marion. Donc je vais évoquer l'activité de la société en 2020. Avant de parler des comptes, je voudrais évoquer trois points concernant l'activité en 2020, qui sont les ventes de tests MammoRisk, notre activité dans le cadre de l'essai clinique MyPeps en deuxième, et je terminerai par l'ouverture à un bilan de prédiction de risque généraliste avec d'autres pathologies. Donc, je commence par les ventes de tests MammoRisk. Nous avons poursuivi notre extension en France et un petit peu à l'international. Nous avons vendu cette année à peu près 250 tests, majoritairement en France. Donc, nous en vendons toujours à l'hôpital américain de Neuilly et nous avons ouvert quelques centres en province, à Toulouse ou à Épinal. Nous avons aussi des ventes qui commencent en Italie, à Milan, et qui pourront probablement se généraliser. Nous avons quelques ventes en Belgique et un démarrage en Suisse. Voilà, donc les ventes de MammoRisk continuent à s'accroître, mais de manière sans doute un peu lente, parce que on est dans un schéma B2B2C, on vend aux médecins qui revendent aux patientes. Alors, il faut qu'on fluidifie, qu'on facilite ce schéma. Le test MammoRisk est aujourd'hui un peu complexe à vendre pour les médecins. Il y a de problèmes de facturation. Bref, le produit est en cours de simplification. Donc, toujours est-il que nos ventes sont accrues et notre nombre de médecins prescripteurs s'est fortement accru en 2020, mais on est toujours sur un ramp-up finalement assez lent et on attend une hausse dans les mois qui viennent, là, dû aux efforts commerciaux et aux efforts de simplification du produit. Voilà pour les ventes de MammoRisk. Deuxième sujet que je voudrais évoquer, c'est notre participation à l'essai clinique MyPeps. Donc, nous sommes en charge de la prédiction de risque du cancer du sein dans cet essai clinique qui doit inclure en Europe plusieurs dizaines de milliers de femmes. Il y a aujourd'hui, c'est-à-dire en juin 2021, à peu près 10 000 femmes qui ont été incluses dans cet essai, à peu près la moitié en France, une bonne partie en Italie, en Belgique, un peu en Angleterre, en Israël. Donc, nous avons eu un audit de notre activité dans le cadre de cet essai clinique, un audit par les gens qui gèrent l'essai clinique, les personnes du Licancer, qui est le principal investigateur et qui a la responsabilité juridique de cet essai. Tout s'est bien passé. Cet audit n'a pas fait apparaître de difficultés, d'erreurs de notre côté. Et nous avons eu la subvention prévue dans le cadre de cet essai, versée par l'Union européenne en début d'année. Nous avons eu un peu plus de 200 000 euros à ce titre. Voilà, donc tout se passe bien du côté de l'essai. C'est un actif important pour la société, un actif de long terme, mais qui nous sert de rampe de lancement commercial, puisqu'on peut justifier vis-à-vis de tous les médecins partenaires qu'on est l'acteur de référence pour la prise en charge du cancer du sein en Europe. En tout cas, c'est comme ça que les institutions académiques le reconnaissent. Je mentionnerai quand même dans cet essai clinique qu'il y a l'université de Cambridge, et pour ceux qui sont un peu dans le domaine, Cambridge, c'est vraiment l'université à la pointe de la génétique dans le monde. Ils sont même devant Harvard, puisque le génome a été découvert à Cambridge par Crick et Watson, et ensuite les méthodes de séquençage ont été aussi faites, découvertes à Cambridge, donc ils sont vraiment en pointe. Et c'est eux aussi qui ont le modèle de risque de cancer du sein, qui est potentiellement le modèle rival. Bon, et dans cette étude clinique, bien qu'il y ait Cambridge, et bien finalement, c'est notre modèle de risque qui est utilisé. Donc, il faut croire qu'il est meilleur que celui de Cambridge. Et donc, on peut raisonnablement dire que c'est le meilleur modèle de risque en Europe. Voilà, je mentionne ce point, même si c'est un peu du long terme, mais ça nous sert de rampe de lancement pour nos tests commerciaux. Troisième sujet que je voudrais évoquer, c'est l'extension à d'autres maladies. Donc, vous avez certainement pu voir des communiqués de presse. Donc, nous avons démarré en 2020 l'élargissement à d'autres pathologies. Vous avez vu des communiqués à partir du début de l'année 2021. C'est un projet qui a démarré un petit peu avant. Et tout se passe bien. Et donc, j'espère qu'on pourra lancer ce bilan de prédiction généraliste au mois de septembre. Voilà. Je pourrais aussi évoquer les levées de fonds qui ont eu lieu en 2020, notamment l'augmentation de capital en fin d'année qui s'est bien déroulée puisqu'on a eu un peu plus de 2 millions d'intentions de souscription. Donc, ça a permis de recapitaliser la société. Aujourd'hui, nous avons 2000 actionnaires que je remercie pour leur confiance, pour leur générosité aussi, puisque pas leur générosité financière, mais leur générosité, leur intérêt pour ce projet médical, puisqu'on a demandé à beaucoup, c'était leur motivation en investissement. Et il y a un mix entre les deux, entre l'aspect médical et l'aspect financier. Beaucoup ont investi pour l'intérêt médical. Donc, on se fait un devoir d'être à la hauteur de ces attentes et on espère qu'on sera digne, et je le crois, de ces espoirs. Alors, je vais passer à la présentation brève des comptes de l'exercice. Donc, nous avons un chiffre d'affaires de 51 000 euros. C'est un petit peu plus que le double de l'année précédente. Donc, ce que j'évoquais, c'est les tests mammorisques essentiellement. Et on voit aussi la subvention d'exploitation à 220 000 euros qui viennent de l'essai clinique MyPeps. C'est ce que j'évoquais. Côté dépenses, on voit qu'on a dépensé un petit peu plus de 2 millions et donc les pertes au total sur l'exercice sont à peu près les mêmes que l'année précédente, 2 millions. Bon, c'est beaucoup et c'est peu. Dans notre domaine d'activité, finalement, c'est assez peu. On ne prévoit pas d'accroître énormément ces pertes. On n'est pas dans de la biotech avec des investissements coûteux. On a des charges personnelles qui demeurent finalement assez faibles. On n'a pas de laboratoire. Donc, voilà, 2 millions de pertes. Vu les enjeux, je l'ai déjà dit, de nombreuses réunions des investisseurs, on est sur des marchés mondiaux en millions de personnes. On peut faire quelques dizaines d'euros, peut-être 100 euros de marge par test. Finalement, les investissements restent assez faibles par rapport aux potentialités du secteur. Il faut toujours l'avoir en tête. Voilà. Le point suivant, c'est l'avis, les rapports du commissaire aux comptes. Alors, les commissaires aux comptes de Mazar ont été régulièrement convoqués. Ils sont absents et excusés. Et en qualité de commissaire aux comptes, Mazar a établi des rapports requis par la loi et qui ne contiennent ni réserves ni observations. Et le rapport sur les conventions réglementées ne fait lui aussi état d'aucune résolution nouvelle conclue en 2020. Les rapports sur les délégations de compétences pour augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription qui contiennent les observations d'usage n'ont plus fait l'objet d'observations. Voilà, donc les rapports des commissaires aux comptes n'ont pas état de soucis particuliers. Et donc, je vais maintenant laisser de nouveau la parole à Marion Renelier pour l'annonce des votes résolution par résolution.
Merci. Donc, je vous rappelle que le texte des résolutions était contenu dans l'avis de réunion qui valait avis de convocation et qui a été publié au bulletin des annonces légales obligatoires du 10 mai 2021. Donc, en conséquence, je propose de faire l'économie d'une lecture intégrale des résolutions et je vais rappeler que les éléments essentiels de chaque résolution avant d'annoncer les résultats des votes. Donc, à titre ordinaire, la première résolution qui est l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Donc, le conseil d'administration vous demande d'approuver les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 qui viennent de vous être présentés et qui font apparaître une perte de 2 220 577 euros. Nous vous précisons qu'aucune dépense visée aux articles 39.4 et 39.5 du Code général des impôts n'a été enregistrée au cours de l'exercice. Donc, les votes sont de vote pour 100%, vote contre 0%, abstention 0. Donc, en conséquence, la résolution est adoptée à l'unanimité. Pour la deuxième résolution, approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Le conseil d'administration vous demande d'approuver les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 qui viennent de vous être présentés et qui font apparaître une perte de 2 250 592 euros. Les votes sont vote pour 100%, vote contre 0, abstention 0. En conséquence, la résolution est adoptée à l'unanimité. Troisième résolution, affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Donc, le conseil d'administration vous propose d'affecter la perte de 2 220 577 euros de l'exercice clos le 31 décembre 2020 au compte de report à nouveau, qui s'élèverait désormais à moins 6 814 191 euros et de ne pas distribuer de dividendes au titre du dit exercice. Les votes sont vote pour 100%, vote contre 0, abstention 0. Donc, en conséquence, la résolution est adoptée à l'unanimité. Pour la quatrième résolution, approbation des conventions réglementées, le conseil d'administration vous propose d'approuver les conclusions du dit rapport et les conventions qui sont mentionnées par application des dispositions de l'article L225-40 du Code de commerce. Les votes sont vote pour 100%, vote contre 0, abstention 0. En conséquence, la résolution elle est adoptée à l'unanimité. Pour la cinquième résolution, renouvellement du mandat d'administrateur de M. Stéphane Ragusa, le conseil d'administration vous propose de renouveler le mandat d'administrateur de M. Stéphane Ragusa arrivant à échéance à l'issue de la présente Assemblée générale pour une durée de 3 années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale devant se tenir en 2024 afin de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Les votes sont vote pour 100%, vote contre 0, abstention 0. En conséquence, la résolution elle est adoptée à l'unanimité. Sixième résolution, renouvellement du mandat d'administrateur de la société Caravel. Donc, le conseil d'administration vous propose de renouveler le mandat d'administrateur de la société Caravel arrivant à échéance à l'issue de la présente assemblée pour une durée de 3 années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale devant se tenir en 2024 afin de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Les votes sont vote pour 100%, vote contre 0, abstention 0. Donc, en conséquence, la résolution est adoptée à l'unanimité. Pour la septième résolution, le renouvellement du mandat d'administrateur de M. Antoine Bricard. Donc, le conseil d'administration vous propose de renouveler le mandat d'administrateur de M. Antoine Bricard, arrivant à échéance à l'issue de la présente assemblée, pour une durée de 3 années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale devant se tenir en 2024, afin de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Les votes sont vote pour 100%, vote contre 0, abstention 0%. En conséquence, la résolution est adoptée à l'unanimité. Pour la huitième résolution, le renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Omblin de Villèle. le conseil d'administration vous propose de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Ombline de Villèle, arrivant à échéance à l'issue de la présente Assemblée générale pour une durée de 3 années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale devant se tenir en 2024, afin de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Les votes sont vote pour 100%, vote contre 0, abstention 0. En conséquence, la résolution est adoptée à l'unanimité. Neuvième résolution. Pour le programme de rachat d'actions, le conseil d'administration vous demande de bien vouloir l'autoriser à mettre en œuvre un programme de rachat qui aurait les caractéristiques suivantes. Donc, les objectifs poursuivis par ordre de priorité sont favoriser la liquidité du titre, attribuer les actions rachetées en cas d'exercice de toute valeur mobilière donnant accès au capital, notamment les Océanes actuellement en circulation, attribuer des actions aux salariés et aux mandataires sociaux dans le cadre du programme d'incentive, remettre les titres rachetés dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport, annuler les actions rachetées au titre de réduction de capital, mise en œuvre de toute pratique de marché admise par l'AMF, la durée du programme de 18 mois, le pourcentage maximum 10% du capital réduit à 5% pour la remise des titres rachetés dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport, le prix d'achat unitaire maximum, hors frais et hors commission, 20 euros. Donc les votes sont vote pour 100%, vote contre 0, abstention 0. En conséquence, la résolution est adoptée à l'unanimité. Et la dixième résolution à titre ordinaire, le pouvoir pour les formalités, les votes sont de vote pour 100%, vote contre 0, abstention 0. En conséquence, la résolution est adoptée à l'unanimité. On va passer à titre extraordinaire, donc pour la onzième résolution. Délégation de compétences donnée au conseil d'administration pour augmenter le capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription. Le conseil d'administration vous demande de déléguer par compétence pour émettre des actions et ou des valeurs mobilières donnant accès au capital selon les caractéristiques suivantes. Donc émission de titres avec maintien du DPS, donc destiné aux actionnaires. Montant nominal maximum des augmentations de capital, 60 000 euros. Montant nominal maximum des titres d'emprunt, 20 millions d'euros. Le prix de souscription unitaire des actions émettes serait déterminé par le conseil d'administration dans les limites prévues par la loi. Et cette délégation serait valable 26 mois à compter de la présente Assemblée générale. Les votes sont vote pour 100%, vote contre 0, abstention 0. En conséquence, la résolution est adoptée à l'unanimité. Pour la 12e résolution, délégation de compétences donnée au conseil d'administration pour augmenter le capital social avec suppression du DPS des actionnaires par voie d'offre au public autre que celle visée à l'article L411-2 premièrement du Code monétaire et financier. Donc, le conseil d'administration vous demande de déléguer votre compétence pour émettre des actions et ou des valeurs mobilières donnant accès au capital selon les caractéristiques suivantes. Donc, émission de titres avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre au public, autre que celle visée à la 13e résolution ci-après, mais les actionnaires pourraient participer en exerçant un droit de priorité si celui-ci était conféré par le conseil d'administration. Le montant nominal maximum des augmentations de capital, 60 000 euros. Toute utilisation s'imputera sur le plafond global prévu à la 11e résolution. Le montant nominal maximum des titres d'emprunt, 20 millions d'euros. Toute utilisation s'imputera sur le plafond global prévu à la 11e résolution. Le prix de souscription unitaire des actions à émettre serait déterminé par le conseil d'administration et devrait être égal, au moins égal à la moyenne pondérée par le volume des cours de l'action de la société sur le marché Euronext Growth Paris des cinq dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission, éventuellement diminuée d'une décote maximum de 25%. Donc, cette délégation elle serait valable 26 mois à compter de la présente Assemblée générale. Les votes sont vote pour 100%, vote contre 0, abstention 0. En conséquence, la résolution est adoptée à l'unanimité. La 13e résolution, délégation de compétences donnée au conseil d'administration pour augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public, s'adressant exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés, visé à l'article L411-2 premièrement du Code monétaire et financier. Ici, le conseil d'administration vous demande de déléguer votre compétence pour émettre des actions et ou des valeurs mobilières donnant accès au capital selon les caractéristiques suivantes. Émission de titres avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé ouvert auprès d'un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou d'investisseurs qualifiés. montant nominal maximum des augmentations de capital 60 000 euros et dans la limite de 20 % du capital par an conformément à la loi. Toute utilisation s'imputera sur le plafond global prévu à la 11e résolution. Montant nominal maximum des titres d'emprunt 20 millions d'euros. Toute utilisation s'imputera sur le plafond global prévu à la 11e résolution. Le prix de souscription unitaire des actions émettes serait déterminé par le conseil d'administration et devra être au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la société sur le marché Euronext Growth Paris des 5 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission, éventuellement diminué d'une décote maximum de 25%. Cette délégation serait valable 26 mois à compter de la présente Assemblée générale. Les votes sont vote pour 100%, vote contre 0, abstention 0. En conséquence, la résolution est adoptée à l'unanimité. Pour la 14e résolution, délégation de compétences donnée au conseil d'administration pour augmenter le capital social au bénéfice d'une catégorie dénommée d'investisseurs. Donc, le conseil d'administration vous demande de déléguer votre compétence pour émettre des actions et ou des valeurs mobilières donnant accès au capital selon les caractéristiques suivantes. Émission de titres avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une ou des catégories de personnes suivantes. À une ou plusieurs sociétés d'investissement ou fonds d'investissement français ou étrangers investissant à titre principal ou ayant investi plus de 5 millions d'euros au cours des 24 mois précédant l'augmentation de capital considérée dans le secteur des sciences de la vie et technologies de la santé et investissant pour un montant de souscription unitaire supérieur à 100 000 euros, prime d'émission comprise. Et ou à un ou plusieurs partenaires stratégiques de la société, situés en France ou à l'étranger, ayant conclu ou devant conclure un ou plusieurs contrats de partenariat, développement, co-développement, distribution, fabrication, etc. Et ou à une ou plusieurs sociétés que ces partenaires contrôlent, qui contrôlent ces partenaires ou qui sont contrôlés par là où les mêmes personnes que ces partenaires, directement ou indirectement, au sens de l'article L233-3 du Code de commerce. Donc, le montant nominal maximum des augmentations de capital, ce serait 60 000 euros. Toute utilisation s'imputera sur le plafond global prévu à la 11e résolution. Le montant nominal maximum des titres d'emprunt, 20 millions d'euros. Toute utilisation s'imputera également sur le plafond global prévu à la 11e résolution. Le prix de souscription unitaire des actions à émettre serait déterminé par le conseil d'administration et devra être au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la société sur le marché Euronext Growth Paris des 5 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission, éventuellement diminué d'une décote maximum de 25%. Cette délégation serait valable 18 mois à compter de la présente Assemblée générale. Les votes pour cette résolution sont vote pour 100%, vote contre 0, abstention 0. En conséquence, la résolution est adoptée à l'unanimité. Pour la 15e résolution, délégation de compétences donnée au conseil d'administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires. Donc, le conseil d'administration vous demande de déléguer votre compétence d'augmenter le nombre de titres à émettre pour chacune des émissions avec ou sans droit préférentiel de souscription décidé en vertu des résolutions de la présente Assemblée générale, ainsi qu'en vertu des résolutions en cours d'exécution à la date de la présente Assemblée générale dans les 30 jours de la clôture de la souscription, dans la limite de 15% de l'émission initiale et au même prix que celui retenu pour l'émission initiale. Cette délégation serait valable pour une durée de 26 mois à compter de la présente Assemblée. Les votes pour cette résolution sont deux. Vote pour 100%, vote contre 0, abstention 0. En conséquence, la résolution est adoptée à l'unanimité. On va passer à la 16e résolution. Délégation de compétences donnée au conseil d'administration pour réduire le capital social de la société par voie d'annulation d'actions précédemment rachetées dans le cadre de l'autorisation d'achat de ses propres actions. Donc, le conseil d'administration vous demande de déléguer votre compétence pour annuler les actions acquises par la société au titre de la mise en œuvre du programme de rachat d'actions autorisé par la présente Assemblée générale dans sa 9e résolution de la présente Assemblée ou toute autre résolution ayant le même objet, dans la limite de 10% du capital social de la société par période de 24 mois. Cette délégation serait valable pour une durée de 26 mois à compter de la présente Assemblée. Donc, les votes pour cette résolution sont vote pour 100%, vote contre 0, abstention 0. En conséquence, la résolution est adoptée à l'unanimité. pour la 17e résolution, donc l'autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes de la société. Le conseil d'administration vous demande de déléguer votre compétence pour attribuer gratuitement des actions gratuites dans les limites suivantes. Donc le montant maximum, ça serait 5% du capital social à la date de l'attribution. Période d'acquisition à l'issue de laquelle les actions attribuées seront définitives, donc un an à compter de la date de l'attribution. Période de conservation obligatoire des actions acquises, ce serait un an à compter de la fin de la période d'acquisition. Le conseil d'administration procédera aux attributions gratuites d'actions et déterminera notamment donc, l'identité des bénéficiaires, le nombre d'actions attribuées gratuitement à chaque bénéficiaire et le cas échéant, les conditions et les critères d'attribution des actions auxquelles seront soumis les salariés et ou les mandataires sociaux bénéficiaires. Cette délégation serait valable 38 mois à compter de la présente Assemblée générale. Donc, les votes pour cette résolution sont de vote pour 100%, vote contre 0, abstention 0. Donc en conséquence, la résolution est adoptée à l'unanimité. On va passer à la 18e résolution. Délégation de compétences à donner au conseil d'administration pour augmenter le capital de la société au profit des adhérents au plan d'épargne entreprise. Donc en application de la loi, comme nous avons proposé des délégations de compétences tendant à la réalisation d'augmentation de capital en numéraire, nous devons légalement soumettre une résolution pour augmenter le capital de la société au profit des adhérents au plan d'épargne entreprise. Donc, le conseil d'administration ne pense pas que cette résolution est opportune, étant donné qu'il bénéficie de mesures plus avantageuses pour faire participer les salariés aux résultats de l'entreprise. C'est d'ailleurs en ce sens que la 17e résolution sur l'attribution d'actions gratuites vous a été proposée. En conséquence, pour cette résolution, le conseil d'administration a recommandé de rejeter cette résolution. Donc, les votes pour cette 18e résolution sont vote pour 2,24%, vote contre 97,75%. Donc, en conséquence, la résolution est rejetée. Et enfin, la 19e résolution pour les pouvoirs pour les formalités, les votes sont de vote pour 100%, vote contre 0, abstention 0. Donc, pour cette 19e résolution, elle est adoptée à l'unanimité. Je vais laisser le soin à Stéphane Ragusa de clôturer cette séance.
Voilà, et bien, écoute, merci Marion pour cette lecture des résolutions. Donc, l'Assemblée générale est donc terminée. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.
Merci à tous.